Il y a eu une superbe belle annonce au cours de la journée de vendredi à Lebel-sur-Quévillon. C'est concernant la relance de l'usine de pâte Kraft là-bas. Et tout le monde sait très bien dans la région que c'est notre compagnie qu'on aime beaucoup ici, Chantier Chibougamau, qui est derrière tout ça. J'ai voulu rejoindre le porte-parole de Chantier Chibougamau, bien sûr, de Nordic Kraft également, Frédéric Vérot, qui est au bout du fil pour nous parler de cette belle annonce. Bonjour Frédéric!
Bonjour René.
Comment ça va?
Ah ben ça va bien aujourd'hui. On est content que ce soit fait. Cette annonce, on avait très très hâte depuis plusieurs mois de procéder enfin à l'annonce que le financement était bouclé pour ce projet ambitieux de 340 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. On avait hâte enfin de pouvoir dire à des gens qui envisageaient se joindre à l'équipe et accepter un emploi, n'hésitez pas, le projet il est officiel. Maintenant, on peut le dire. Et aussi d'avoir donc conclu le travail relatif au financement, parce que c'est des heures et des heures et des heures de travail. Alors là, c'est accompli, c'est fait, c'est derrière nous. Et enfin, ce matin, on peut revenir à ce que l'on aime le plus faire au monde, c'est-à-dire avoir les deux pieds dans une usine, à l'améliorer, à la faire cheminer. Là, ben, c'est ce qu'on peut aussi faire pour Lebel-sur-Quévillon.
Les gens ne le savent peut-être pas, mais quand Chantier Chibougamau a pris la décision de se lancer dans ce projet-là, c'était tout qu'un défi parce que l'usine, là, il a fallu que vous repartiez à zéro. Il restait pratiquement juste les murs.
Sérieusement, c'était pas si apocalyptique.
Okay.
Il y avait certains équipements qui avaient pu être démantelés, vendus ou relocalisés. Il y avait certains segments de bâtiments qui avaient pu être cédés pour d'autres usages. Donc, il y avait effectivement une usine qui était différente de celle qui était en état de produire en 2005. Et c'est pas pour rien, on parle de 340 millions, là, pas 10, 20 ou 30 millions. 340 millions de dollars. Alors oui, ça prend beaucoup d'amour à beaucoup de segments de bâtiment de l'usine, à beaucoup de segments du procédé. Il faut racheter des équipements complets, en renouveler d'autres. Alors, et c'est vraiment plus d'une année et demie de travail avec, tenez-vous bien, 450 à 500 personnes. C'est du monde à la messe qui sont là pour faire des travaux de construction. À toutes les semaines, c'est 450-500 personnes qui sont dans l'usine à Lebel-sur-Quévillon. Donc, il y avait une tâche colossale et il était question au début donc des doutes ou de l'envergure du défi. C'est pertinent de le rappeler, René, parce qu'effectivement, au début, tout le monde qu'on rencontrait nous disait « Êtes-vous sûr de vouloir vous lancer là-dedans? Êtes-vous conscient de l'ampleur du défi? Est-ce que vous prenez la pleine mesure de tout ce qu'il y a à faire au plan humain? Parce que c'était pas facile à l'époque à Quévillon. La dynamique, c'était pas évident. Il y avait souvent des conflits de travail. Dans quoi vous vous embarquez? » Alors, tout le monde, vraiment, tentait de nous dissuader, mais il y avait cette espèce de confiance en l'avenir qui a toujours ponctué le développement de Chantier Chibougamau. Il y avait surtout cette motivation indéfectible d'avoir enfin une solution permanente à ce talon d'Achille, comme le disait Michel Filion vendredi dernier. Une espèce de boulet qui nous retenait toujours, ou une épée de Damoclès qui était au-dessus de notre tête, de notre capacité à vendre ou non les copeaux. Et quand on les vendait, ben, du prix auquel on pourrait les vendre et de l'impact dramatique que ça pourrait avoir sur notre rentabilité. On a beau avoir une usine extraordinairement performante, avoir une équipe à Chibougamau, à Landrienne, à Montréal, de gens qui arrivent le matin à job et qui sont craqués, qui sont motivés. On a beau avoir ça, ben, si on avait l'incertitude, une espèce de nuage permanent au-dessus de la tête, on va-tu vendre nos copeaux ou non, ben, il y avait toujours une retenue sur ce qu'on pouvait se permettre de faire comme projet de développement, sur notre degré de confiance et ferme en l'avenir, bien là, enfin, on n'aura plus d'épisodes comme ceux des années 80 où les copeaux nous empêchaient de préserver nos opérations. On n'aura plus de doutes comme à fin 2000, début 2010, en 2016-2017. Enfin, on a coupé cette espèce de chaîne-là accrochée à un boulet qui s'appelait copeaux pour nous projeter pour des années et des années à venir, à partir de Chibougamau, évidemment.
Oui, et puis là, ben, ce qui est intéressant, c'est que là, ces fameux copeaux-là vont devenir rentables parce qu'on nous annonce que la pâte Kraft que vous allez produire, la demande va augmenter principalement en Asie. Donc ça, c'est encore une belle fenêtre qui s'ouvre.
Il y a deux éléments clés à retenir, René, pour comprendre l'effervescence qu'on a nouvelle en regard de la pancraft. C'est l'Asie, mais c'est aussi l'écologie. Je m'explique. En Asie, et en fait, on va repartir au début, c'est que la pancraft, ça sert à fabriquer des papiers tissus. Des papiers tissus, c'est, en termes clairs, du papier de toilette. C'est du papier à main, un papier de tout et surtout. Donc, les papiers tissus, évidemment qu'il y a les dizaines et les dizaines de millions d'Asiatiques en Inde et en Chine qui vivaient en campagne sans installation sanitaire, donc sans toilette à l'époque, au début des années 2000, qui sont désormais dans un contexte urbain, ben, ça fait des dizaines de millions de nouveaux consommateurs de papier toilette qui n'existaient pas, donc qui consomment davantage de pancraft. Et la pancraft, telle qu'on la fabrique au Québec, avec la fibre de bois du Québec, notamment les épinettes noires, c'est une pancraft qui a une réputation à l'échelle mondiale, comme la plus performante pour donner les papiers tissus les plus soyeux, les plus résistants qui soient. Alors, c'est ce qui fait qu'il y a un appétit, il y a une curiosité, il y a un enthousiasme dans les marchés pour cette pâte-là. Et sinon, ben, écologie, en 2005, peu de gens se souciaient de l'empreinte écologique de certaines de leurs activités qui étaient des automatismes. Rappelons-nous, on a fait le virage pour ne prendre que des sacs en plastique à usage unique dans tous les magasins. Ben, aujourd'hui, on ne compte plus les villes. Et si on va, par exemple, au 10-30, sur la rive sud de Montréal, à Brossard, ben, il y a des gens en ceux qui magasinent là, qui en consomment des biens de consommation qui sont vendus dans un sac. Ben, la ville de Brossard, elle interdit les sacs en plastique à usage unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de pancraft pour faire des sacs de qualité, des sacs résistants, des sacs réutilisables et surtout des sacs recyclables en fibre de bois qui est, by the way, la fibre qui est renouvelable. Alors, tout le mouvement écologique fait que des verres à café en styromousse faits avec du pétrole, on n'en veut plus. Des boîtes de Big Mac en styromousse, on n'en veut plus. Et tous ces produits d'emballage alimentaire-là, qu'est-ce qu'ils consomment dorénavant? Ils consomment des produits faits en carton. Ouais. Et le carton, il est résistant, il garde la chaleur, il est performant quand il y a de la pancraft qui est consommée. Donc, ce sont des éléments qu'on ajoute au commerce en ligne qui requiert des cartons d'emballage pour chaque article qui n'était pas requis pour les activités humaines il y a 10-15 ans, comme c'est le cas aujourd'hui. Ouais. Ben, ça fait trois éléments qui nous poussent dans le dos, qui font qu'on a un marché qui est très, très, très soutenu, qui est très dynamique pour les décennies à venir pour la pancraft, comme on va dorénavant en fabriquer à Quévillon et comme on va dorénavant avoir un débouché pour les copeaux de nos 600 jobs à Chibougamo qui deviennent sécurisés directement grâce à la relance à Quévillon.
Oui, c'est intéressant parce que tout s'emboîte. Là, maintenant, il y a un défi qui s'amène à vous. On a, selon les communiqués, on disait qu'il y avait 150 employés là, qui avaient trouvé preneur dans l'usine. Il vous reste encore la moitié des employés à trouver. Ça aussi, c'est un défi parce que la belle sur Quévillon, on s'entend, c'est pas la porte à côté.
C'est pas la porte à côté, la belle sur Quévillon, mais l'Andrienne, c'est pas la porte à côté non plus, puis Chibougamau non plus. Donc, on part pas de zéro. Notre équipe de ressources humaines, je pense Benoît, Olivier, là, j'ai fait l'erreur de nommer du monde, ce qui veut dire que je vais en oublier. Soyez indulgents, je vous en prie. Mais notre gang à Chibougamau, elle a l'habitude de devoir recruter un peu comme des ninjas, là, où on a une cible très précise, il faut faire preuve d'agilité, il faut être ingénieux, il faut être créatif. Puis quand on a une cible, quand on a un candidat, ben, il devient impossible de l'échapper. Et c'est avec cette culture, cette attitude-là, qu'on arrive à recruter dans un contexte comme celui de Chibougamau. Alors, on part de cette approche-là, qui est très utilisée dans l'univers du recrutement, pour aborder le recrutement à Lebel-sur-Quévillon. Et René, on a fait quelque chose d'original cet été. On a fait un sondage à l'usine à Quévillon auprès de nos employés. On leur a dit, qu'est-ce qui fait que vous avez accepté, vous avez écouté, en fait, la job qu'on avait à vous offrir. Qu'est-ce qui fait que vous l'avez accepté, cette job-là? Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous seriez là dans 5 ans? Et à peu près tout le monde répondait à la même affaire.
Okay.
C'est une compagnie familiale. Les boss, là, c'est pas un actionnaire dans une tour au 56e étage à New York qu'on verra jamais de nos vies. Les boss, là, les propriétaires, on les voit. On a un contact avec eux. Quand on a une idée, là, qui est une bonne idée, ça prend pas 2 mois et demi avec 26 formulaires avant que l'idée soit portée à l'attention de la personne qui décide. Ça prend une couple d'heures, c'est beau, on a les ressources, on est là pour toi. Fait que, en termes de gestion, ça veut dire qu'on a les outils, puis on a les structures décisionnelles pour que quelqu'un qui a du talent, quelqu'un qui a de l'initiative, quelqu'un qui veut aider à améliorer la business, qui lève le matin avec cette ambition-là, ben, quand il travaille chez nous, il y a l'espace pour le faire. Quand il travaille chez nous, ça ne prend pas 4 mois et demi à avoir une réponse. Il l'a tout de suite. Puis si c'est non, il peut expliquer pourquoi, parce qu'on parle à son intelligence. Alors, ce sont ces éléments-là qui font que les gens ont osé écouter. Puis là, ben, ils sentent la culture du défi. La culture, c'est vraiment de craquer. Puis là, ils voient, il y a bien des gars et des filles de Chibougamau qui vont porter le noyau à Kevion. Et là, ils voient ce monde-là débarquer avec la culture chantier Chibougamau qui est distinctive, où tout le monde rampe dans la même direction. Pas d'affaires de boss, de syndicat, de taponnage de même. On est tous là les manches retroussées parce qu'on veut que ça marche. Là, ils voient ça arriver, puis on n'a jamais vu ça plus vite dans les mines, on n'a jamais vu ça plus vite dans les passes de papier. Là, je dis, Colin, c'est différent, c'est un peu insécurisant, mais ça a l'air le fun, mais surtout, ça a l'air à marcher. Et ce sont ces éléments-là qui font que ça marche. Ben, je vous le donne un scoop tout de suite. C'est l'histoire qu'on va proposer aux gens pour compléter l'équipe à la belle souscription. Je vous donne un autre scoop tout de suite. C'est l'histoire qu'on va de plus en plus partager parce que l'équipe à Chibougamau, on est encore constamment en recrutement. C'est des gens de talent, des gens avec des attitudes ouvertes pour bâtir une business qui est solide et qui veulent grandir avec nous autres. Ben, ça va en prendre d'autres, des gens qui vont venir vivre avec nous autres à Chibougamau, qui vont se joindre à ce noyau d'hommes et de femmes de qualité qu'on a à l'usine depuis des décennies. Ça va en prendre plus que ça. Fait que les gens qui nous écoutent là, ce soir, dans leur voiture, à Chibougamau, à Chapin, ben, passez le mot à votre famille, à vos proches, à vos anciens amis d'école, de cégep, d'université. Ça va nous prendre du renfort partout dans nos usines. Puis, on n'est pas parfait. On a le défaut de nos qualités. Mais on aime ça quand ça marche, on aime ça quand c'est le fun. Fait que, on va avoir besoin de notre monde pour jouer ce rôle d'ambassadeur parce qu'on aura besoin d'humains, des hommes et des femmes dans toutes nos usines.
Ben, je pense que le message est assez clair. Frédéric, relance de l'usine, on parle de l'été prochain là, pour le démarrage?
Absolument, d'ici à l'été 2020. On veut mettre l'interrupteur à on pour de bon et recommencer à produire de la pâte craft. Ça va être un départ qui va être graduel. On a toute une courbe de progression qui est prévue. Cela dit, on a l'ambition déjà de faire mieux que la courbe de progression qui est prévue. Donc, on veut vraiment que ça marche vite et bien. En plus de ça, on a aussi l'ambition de remettre ça plus rapidement que prévu. Mais on veut pas faire les coins ronds, on veut pas bousculer les choses, mais c'est l'échéance, donc été 2020, pour remettre ça en production.
Ben, Frédéric Véro, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques instants pour nous jaser. Puis bien sûr, là, on aura l'occasion de se reparler du dossier. On est très, très fiers justement de tout ce qui se passe, puis on suit ça avec attention.
Ben, n'importe quand, puis on va... Quand vous avez des curiosités sur le projet, rappelez-nous, on est là pour ça.
Ben, merci beaucoup, Frédéric.
Merci, à bientôt.
Alors, bientôt, au revoir.
Bye-bye.